Dans ce podcast, je veux te parler de 6 tendances du futur en organisation, ou du moins 6 tendances qu'on va voir arriver ou qui sont déjà arrivées dans nos milieux professionnels et qui, selon moi, vont vraiment faire partie de l'avenir du futur. Alors, si ça t'intéresse de savoir, en fait, qu'est-ce qui s'en vient, en quoi peut-être notre façon de travailler va changer dans le futur, écoute ce podcast parce que tu vas bien aimer ce que je vais te présenter dans cet épisode. Vous écoutez Productif au quotidien. Le podcast où on parle organisation, productivité et gestion du temps. Je m'appelle Mathieu Desroches et sur ce podcast, je vous partage les secrets de productivité des gens hautement performants ainsi que des stratégies concrètes pour mieux vous organiser et maximiser votre ressource la plus précieuse, le temps. C'est le rendez-vous des entrepreneurs professionnels et leaders ambitieux qui souhaitent faire une différence dans la vie et multiplier leur impact grâce à une meilleure productivité. Alors, bonjour et bienvenue sur le podcast Productif au quotidien. Dans cet épisode, j'avais envie de faire quelque chose de différent. Je sais qu'en général, sur le podcast, je suis un peu plus en mode de donner plein de conseils pratiques. Mais dans ce podcast, j'avais envie de vous parler des tendances du futur dans nos milieux professionnels, des tendances en termes d'organisation, de productivité, dans nos façons de travailler. Et je crois que c'est aussi mon rôle en tant que spécialiste de ce domaine-là d'adresser ce genre de sujet sur le podcast afin que peut-être les dirigeants d'entreprise, les entrepreneurs qui nous écoutent puissent peut-être s'aligner, se préparer à ce qui s'en vient. Et pour tous les autres, peut-être dans une position de salarié ou encore les étudiants, bien, que vous puissiez également vous enligner avec ce qui s'en vient dans le futur, vous préparer aussi aux changements et aux nouvelles exigences que le milieu professionnel va nous demander à tous et chacun. Parce que vous savez, notre façon de travailler est constamment en évolution, en constant changement. La façon qu'on travaille aujourd'hui, en date où je publie cet épisode, est complètement différente de ce qu'on faisait il y a 10 ans. Il y a des nouveaux outils qui arrivent, il y a des nouvelles tendances. Et là, sans même parler de la pandémie là, qui est arrivée en 2020 et qui a vraiment bouleversé plusieurs choses et amener une accélération du changement, de l'évolution dans plein de domaines. Alors voilà, écoute, dans cet épisode, en toute simplicité, je te parle de ce que moi j'entrevois, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai pu lire dans des sites de nouvelles auprès de sources crédibles pour en fait voir ce qui s'en vient dans le domaine de la productivité, de l'organisation dans nos milieux professionnels. Alors reste avec moi pour qu'on puisse traverser tout ça ensemble dans le podcast. Et avant de plonger dans l'épisode du jour, comme toujours, ça me fait toujours plaisir de te présenter différentes ressources que j'ai mis à disposition pour toi. Hein. Et je te rappelle que sur mon site internet, si t'es jamais allé faire un tour, tu te rends au mathieudesroches.com. Et sur mon site, j'ai un menu qui s'appelle « Ressources ». Et dans ce menu-là, j'ai vraiment plein de contenus pour toi. Certains contenus qui sont payants, oui, mais beaucoup, beaucoup de contenus qui sont gratuits. Et aujourd'hui, je veux vraiment te faire mention, en fait, de mes différentes ressources gratuites. J'ai une page sur mon site internet, donc le menu « Ressources », cours gratuits. Et là-dedans, tu vas avoir une liste vraiment de webinaires, d'ateliers, de guides que tu peux télécharger qui vont t'aider dans ta productivité. Et en ce moment, la ressource là, la plus récente que j'ai mis à disposition, c'est ma webconférence, mon webinaire qui est préenregistré, qui s'appelle « 3 stratégies pour planifier et gérer ton temps comme un pro ». Donc, une excellente formation gratuite de plus d'une heure dans laquelle je te présente 3 excellents conseils, 3 excellents trucs pour t'aider dans ta gestion du temps et plus particulièrement dans la planification de ton horaire. Donc, comment te faire un bon planning, comment utiliser les blocs de temps pour t'assurer de faire de la place pour tes priorités dans ton agenda. Alors, si tu as envie de t'améliorer dans ce domaine-là, de la planification, de l'organisation de ton temps, je t'invite vraiment à aller t'inscrire pour recevoir ce webinaire gratuit-là qui va t'être envoyé sur ta boîte de courriel. Donc, je te mets le lien dans les notes du podcast ou tu peux directement aller au mathieudesroches.com/conférence-temps. Bon, les 6 tendances maintenant, écoute, je vais vous les présenter une après l'autre et vous allez voir, il n'y a pas nécessairement toujours de suite logique entre les points. C'est vraiment juste 6 points, 6 tendances du futur qui sont vraiment importantes à considérer, qui vont changer notre façon de travailler et qui peut-être vont nous obliger à s'adapter, à maîtriser d'autres outils, d'autres compétences et tout ça. Alors, première tendance, sans plus tarder, les outils de messagerie instantanée vont faire partie intégrante des communications dans notre milieu professionnel. Donc, les outils de messagerie instantanée vont faire partie intégrante de nos outils de communication. Et qu'est-ce que je veux dire déjà d'entrée de jeu là, par les outils de messagerie instantanée? Ben, je parle ici des applications comme Slack, par exemple, qui est très populaire, ou encore Microsoft Teams, qui est beaucoup utilisé là, plus dans le milieu corporatif. Donc, la plupart des grandes entreprises sont encore sur la suite Microsoft Office et utilisent Teams pour les communications internes. Et ça, bon, ça fait déjà quelques années maintenant. Ça date pas là, de 2022 en date où je sors ce podcast-là. C'est quelque chose qui a déjà vu le jour depuis quelques années. Mais je pense, selon mes recherches et tout ça, que c'est vraiment à partir de 2015 qu'il y a eu un tournant, qu'il y a eu vraiment, des outils qui ont été publiés sur le marché. Slack était un des pionniers dans ce domaine-là. Slack, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil de messagerie instantanée, un compétiteur de Microsoft Teams. Et Slack a été un des premiers outils vraiment à être adopté, à être populaire. Et depuis ce jour, ben, comme toujours, la compétition s'est lancée là-dedans. Et aujourd'hui, il y a vraiment énormément d'outils. Mais tout ça pour dire que c'est, j'ai l'impression, autour des années 2015 qu'on a commencé à voir ce type d'outils-là entrer sur le milieu professionnel. Et même aujourd'hui, moi, pour gérer mon entreprise, j'utilise la suite Google Workplace, là, le Gmail version professionnelle. Et récemment, ils ont justement ajouté également une fonction de messagerie instantanée. Donc, on voit que c'est vraiment quelque chose qui commence à être déployé et ça fait vraiment maintenant partie intégrante des communications. Plusieurs équipes de travail, plusieurs entreprises et même des sous-traitants, des travailleurs autonomes se retrouvent à devoir utiliser ce type d'outil-là. Et bon, bien que ça fait déjà quelques années que c'est arrivé, à ce jour, moi, quand je fais des formations, des coachings, des consultations, je réalise que c'est encore vraiment un énorme enjeu parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne savent pas comment gérer ces outils-là efficacement. Tout comme avec nos courriels, où est-ce qu'on a le même problème, on a eu le même problème. Moi, je suis trop jeune, j'ai pas connu cette époque-là. Dis-moi, j'étais pas sur le marché du travail à ce moment-là. Mais quand les emails ont été inventés et ont commencé à être déployés et adoptés dans les différentes entreprises, dans le milieu professionnel, imaginez le changement que ça a dû être. On part des années à s'organiser avec du courrier papier. Et là, les courriels qui ont vu le jour, ça a dû vraiment bouleverser les façons de communiquer. Ça a dû également être un gros stress, parfois un énorme gouffre de temps, parce que là, tu te retrouves avec une technologie que tu ne comprends pas. Les messages rentrent beaucoup plus vite. Le volume de communication que tu reçois dans des courriels était beaucoup plus important que le nombre d'enveloppes que tu recevais de façon physique à l'époque. Et là, j'ai l'impression que ben, les courriels, maintenant, ça fait partie intégrante de notre vie. C'est plus quelque chose de nouveau. Bien que même si ça fait des années maintenant que le courriel est notre outil de communication principal, il y a encore une grande majorité de personnes qui n'ont pas appris à gérer leur courriel, tout simplement parce qu'on ne nous apprend pas ça à l'école, on ne nous forme pas dans notre gestion de courriel, d'où pourquoi d'ailleurs j'ai créé un cours qui s'appelle « La méthode zéro courriel » et qui règle enfin ce problème-là. Soit dit en passant, j'en profite pour en parler. Là, si vous êtes un particulier et que vous voulez vous former dans votre gestion de courriel, j'ai une formation pour vous. Et si vous êtes une équipe, une entreprise, sachez que j'ai des forfaits d'entreprise où est-ce que vous pouvez acheter une licence du cours zéro courriel et l'offrir à toute votre équipe pour que tout le monde puisse s'améliorer. Et j'ai énormément d'entreprises qui font appel à mes services pour ça. Petite parenthèse pour dire que si tu as de la difficulté avec ta gestion de courriel, il y a des solutions, il y a des formations qui existent. Maintenant, pour ce qui est de la messagerie instantanée, j'ai l'impression qu'on est encore au stade de la nouveauté. C'est quelque chose qui maintenant est adopté. Mais on ne nous a pas formés, on n'a pas mis de cadre nécessairement sur la bonne façon de l'utiliser ou ce qu'on devrait faire et ne pas faire. Et ça pose problème. Moi, là, quand je fais justement de la consultation, des coachings avec des gens qui doivent travailler avec ce type d'outils-là, c'est que je vois des gens qui sont perdus, des gens qui reçoivent déjà beaucoup de messages par courriel, comme toujours, mais en plus, une partie de leur communication qui arrive, mettons, dans Teams ou dans Slack. Résultat, tes canaux de communication sont dupliqués, tu perds de l'information parce que tu ne te souviens plus « Ah, est-ce que c'est un courriel que j'ai reçu ou il m'avait écrit sur Teams? » Et en plus, sans compter aussi, le gros problème aussi des messageries instantanées, c'est le mot « instantané ». Moi, j'ai beaucoup de difficultés avec ce terme-là parce que dans la façon que cet outil-là a été créé, c'est comme si on exige une réponse plus rapide qu'un courriel. La bonne nouvelle avec les courriels, c'est que, dans le fond, c'est un outil de communication que tu reçois un message, mais tu réponds à la personne quand ça t'arrange dans un délai raisonnable. Donc moi, si tu m'écris un courriel, ne t'attends pas nécessairement à ce que je te réponde tout de suite là, dans la prochaine heure ou aujourd'hui même. Ça se peut que ça me prenne 2-3 jours de te répondre, et parfois même un petit peu plus si je juge que le message n'est pas nécessairement prioritaire. Tandis qu'avec les messageries instantanées, bien, par définition, on s'attend à une réponse plus instantanée, un peu comme les messages textes, dans le fond. En gros, c'est vraiment ça. C'est des messages textes, mais version professionnelle. Et ça, ça pose problème. On se retrouve vraiment à être débordé. Ça nuit également à notre capacité de faire du deep working, donc d'être vraiment immergé sur une tâche, ne pas être distrait par les choses externes. Et ça pose problème. Je ne dis pas, par exemple, que les messageries instantanées, c'est que mauvais. Ça a l'avantage au moins de pouvoir solutionner parfois là, des petites choses là, plus rapidement qu'en s'envoyant 50 courriels et se relancer la balle à chaque fois. Au moins, avec les messageries instantanées, tu es actif sur le chat, on se donne les réponses qu'on a besoin et le tour est joué. Et même la cerise sur le gâteau, c'est pas toutes les applications qui ont cette fonction-là, mais certaines applications de messagerie instantanée ont même la fonction de note vocale, note audio. Et moi, ça me change la vie depuis que j'ai découvert ça. Maintenant, quand je suis en train de communiquer avec quelqu'un, un sous-traitant ou un membre de mon équipe, puis qu'on est sur une messagerie instantanée, ben moi, honnêtement, quasiment 8 fois sur 10, je vais faire des notes vocales parce que ça va beaucoup plus vite qu'écrire et en plus, c'est plus clair. T'sais, donc, mettons que j'ai une explication compliquée à donner, beaucoup plus clair si je le fais en note vocale que si j'écris plusieurs petits messages. Donc, en gros, messagerie instantanée, ça a l'avantage parfois de pouvoir apporter des réponses rapides, éviter de s'envoyer plein de courriels. Ceci étant dit, ça peut également tomber dans un autre extrême où est-ce que là, tu passes 20 minutes à chatter pour essayer de régler un problème quand peut-être tu aurais peut-être juste dû prendre le téléphone pendant 5 minutes pour tout clarifier et que chacun puisse retourner à ses tâches. Bref, tout ça pour dire, je ferai peut-être éventuellement un épisode juste sur la gestion des messageries instantanées. Mon but aujourd'hui, c'est pas d'aller trop en détail là-dedans, mais ce que je voulais dire, c'est que ce type d'outil-là fait maintenant partie intégrante de nos outils de communication. Je ne pense pas que ça va disparaître. Je pense qu'au contraire, ça va faire son chemin, comme les courriels ont fait leur chemin il y a des années, et il va falloir apprendre à faire la part des choses entre les courriels versus la messagerie instantanée. Donc, par rapport à cette tendance-là, le gros besoin au niveau des entreprises, si vous êtes un chef d'équipe, un entrepreneur ou tu sais à la tête d'une équipe quelconque, il faut vraiment statuer à l'interne, à savoir, mais c'est quand qu'on utilise les courriels et c'est quand qu'on utilise les messageries instantanées. Et il faut également donner un cadre et communiquer des attentes aux autres personnes en ce qui concerne le délai de réponse. Moi, si je t'ai écrit un courriel, quel est le délai de réponse raisonnable auquel je m'attends à une réponse? Et si je t'ai envoyé un message, mettons, dans Teams, quel est aussi le délai de réponse? Et normalement, il ne faut pas que le délai de réponse soit comme maintenant, parce que sinon, ça tient tout le monde esclave de sa messagerie instantanée et ça prive tout le monde de ses moments de deep work. Donc ça, c'est l'enjeu. Il faut vraiment mettre un cadre autour de ça parce que ça va faire partie intégrante du futur. Il va falloir apprendre à bien gérer tout l'aspect de la messagerie instantanée qui va vivre, cohabiter en parallèle avec les courriels parce que je ne pense pas que ça va nécessairement remplacer les courriels parce que les courriels, pour moi, c'est un moyen de communication qui est clair, c'est officiel, tu as un archive, c'est facile de s'organiser, retrouver ses trucs. Donc, je ne pense pas que les courriels vont nécessairement disparaître, mais les messageries instantanées, c'est surtout pour, de toute façon, les communications à l'interne avec ton équipe et non pas les communications externes avec des étrangers. Bon, maintenant, deuxième tendance du futur. Évidemment, je vous apprends rien ici, vous en êtes conscient, mais je tiens quand même à la mentionner. Le télétravail est devenu la nouvelle norme. Évidemment, il y avait beaucoup de personnes qui poussaient pour que le télétravail soit adopté avant la pandémie. Donc, moi, je me souviens quand j'écrivais beaucoup d'articles à l'époque avant la pandémie et j'avais fait différentes recherches, différentes études pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde par rapport au télétravail. Et je sais que c'est quelque chose qu'on voulait que ça prenne plus de place. Mais bon, quand la pandémie est arrivée en 2020, ben, en fait, le télétravail a été imposé, a été forcé. Les entreprises ont dû se virer de bord tout de suite et s'adapter, déployer le télétravail tout en s'assurant d'offrir à leurs employés ben, des bons outils de travail pour être à distance, tout en préservant aussi toute la sécurité des données, de l'information. Donc, bref, le télétravail a eu une accélération en 2020 et j'avais une statistique aussi sur laquelle j'étais tombé qui disait que pendant la pandémie, il y a eu un sondage auprès d'un certain nombre d'entreprises aux États-Unis et plus de la moitié des entreprises qui ont répondu au sondage estimaient que 80% de leurs employés travaillaient de la maison. Donc, parmi les entreprises sondées, la moitié de celles-ci ont affirmé que 80 % de leurs employés étaient en télétravail pendant la pandémie. Et un autre sondage également intéressant, là, qui celui-là date de avril 2021, un sondage qui a été fait auprès de dirigeants de ressources humaines, eh bien 99 % des répondants ont affirmé qu'ils pensent que dans le futur, la plupart des entreprises vont offrir un arrangement hybride en ce qui concerne le télétravail. Donc, ce ne sera peut-être pas juste du télétravail à 100 % comme on a vu pendant la pandémie, mais ça risque d'être un hybride. Donc, par exemple, peut-être un 2 jours physiquement au bureau et un 3 jours en télétravail. Bref, le télétravail, c'est devenu la nouvelle norme. Et moi, je suis tellement, tellement content de ça parce que même avant la pandémie, moi, je fightais, je me battais un petit peu pour ça. Je me souviens que j'avais créé des contenus là-dessus pour amener à changer un peu de mentalité. Et je sais pas pourquoi, mais il y avait comme un peu une mentalité vieux jeu chez plusieurs employeurs qui étaient très réticents à ça. Avec, je pense qu'il y avait beaucoup de fausses croyances là-dedans en se disant que si l'employé n'est pas physiquement à son bureau, je ne pourrai pas contrôler son travail, il ne sera pas productif, il va se tourner les pouces alors qu'il est supposé travailler. Alors qu'en réalité, c'est faux. Il y a différentes statistiques qui ont démontré que pendant la pandémie et avec le télétravail, au contraire, la productivité de la majorité des gens a augmenté. Et la raison est que, premièrement, ils ont gagné du temps. Donc, tu perds moins de temps dans déjà le transport. Donc, parfois, tu peux faire peut-être un petit peu plus de temps supplémentaire si ça s'applique. Moins de perte de temps liée à toutes les conversations autour de la machine à café, les interruptions liées à la vie de bureau. Donc, au final, il y a un petit peu moins de coupures dans ta journée et il y a un gain de productivité. Et aussi, il y a une autre statistique qui mentionnait que le gros bénéfice du télétravail, c'était le gain de concentration. T'sais, normalement, à moins que tu es dans un contexte, mettons, de confinement comme on a connu, où est-ce que, je sais pas, moi, les écoles sont fermées, les enfants sont obligés d'être à la maison et là, tu essaies de travailler. On s'entend, ça, c'est pas le cadre de référence. Là. Tu peux pas vraiment être concentré et productif dans un tel contexte si tu es un parent avec de jeunes enfants. Mais en temps normal, si les enfants sont à l'école ou à la garderie et que toi, t'es en télétravail, normalement, tu devrais avoir plus de facilité à te concentrer à la maison parce qu'il y a moins de bruit, il y a moins de mouvement. Et si tu as aménagé un bon espace de travail chez toi, bien, ton espace de travail devrait être optimal et ça devrait t'aider à rester concentré et être plus performant. D'ailleurs, j'ai un livre sur le sujet si ça peut t'intéresser, un livre qui s'appelle « Comment organiser son bureau pour être productif » qui est aussi disponible sur mon site web dans ma boutique. Bref, le télétravail, c'est devenu la nouvelle norme et je pense que c'est là pour rester un peu comme le sondage que je disais, même si après cette fameuse pandémie qui oblige le télétravail, je pense quand même que ça va faire partie intégrante de la vie professionnelle. Et il y avait des sondages aussi qui ont été faits auprès de plusieurs groupes de travailleurs qui disaient que en fait, ils sont beaucoup plus heureux en télétravail. Ils peuvent avoir un petit peu plus de flexibilité, prendre une pause quand ils ont envie de prendre une pause, faire une sieste dans leur journée, travailler dans des vêtements plus relax, plus confortables. Bref, un petit peu moins de pression que de devoir aller au bureau, t'habiller, le temps en transport, en plus le coût de ton essence, des repas que tu prends à l'extérieur du bureau. Donc, je pense que le télétravail a été vraiment apprécié par la plupart des gens et c'est là pour rester. Et puis, moi, en fait, où est-ce que j'enregistre ce podcast, hier au Québec, on avait une immense tempête de neige, donc grosse tempête de neige. Et j'ai comme juste eu un moment de flash quand je voyais la neige tomber dehors par la fenêtre de mon bureau. Je me disais juste comme, hey, une chance que je ne suis plus obligé d'aller travailler physiquement à un bureau à l'extérieur. Parce que j'ai été salarié dans ma vie pendant toute ma vie, en fait, là, jusqu'à récemment. Et je me souviens de des matins quand tempête de neige, mais il faut que tu sois au bureau. Et je me disais, pauvres gens qui aujourd'hui doivent sortir, déneiger leur voiture, se rendre au bureau, alors que quand tu peux faire du télétravail, bien souvent, tu peux accomplir les mêmes types de tâches, mais dans le confort de ton domicile. Alors pour moi, je trouve que télétravail, c'est vraiment génial et je suis bien content que ce soit la nouvelle norme et j'espère que ça va le rester. Aujourd'hui, pour moi, là, un employeur qui n'offre pas de télétravail, zéro, qui est un petit peu vieux jeu, je considère qu'il est arriéré par rapport, mettons, aux compétiteurs. C'est pas une insulte que je vous fais, je dis juste arriéré en termes d'avancement, en termes d'avantages qu'on propose aux employés. Parce que moi, si j'ai le choix entre deux employeurs qui me proposent le même poste, un qui me propose du télétravail et l'autre que non, C'est certain que je vais considérer beaucoup plus le rôle avec celui qui me propose du télétravail. Et c'est sûr que télétravail, je fais une exception ici pour tous les emplois un peu plus traditionnels qui requièrent vraiment une présence physique. Là, on s'entend, malheureusement, ici, dans votre contexte, vous avez un métier qui oblige une présence physique. Je pense à tous ceux qui travaillent parfois peut-être dans les hôpitaux, un enseignant à l'école auprès des enfants. Tu travailles dans une boutique, un magasin, bien évidemment, il faut que tu sois dans ta boutique. Donc, il y a des exceptions, mais pour les entrepreneurs, les travailleurs du savoir, en général, le télétravail est possible. Troisième tendance maintenant, celle-là, en fait, ça va vraiment de soi avec la tendance précédente que je viens de vous parler, c'est que tracer une ligne entre la vie personnelle et professionnelle va devenir de plus en plus difficile. Évidemment, ça va de soi, hein, vu que le télétravail est devenu la nouvelle norme et ça va probablement se poursuivre. Mais quand on est en télétravail, il y a aussi quand même un désavantage qui est la séparation vie professionnelle, vie personnelle. Donc ça, il y a beaucoup de personnes qui l'ont vécu dans la pandémie. Dans le fond, c'est que tu te retrouves que tu es à la maison, donc au final, tu ne comptes plus les heures, donc tu fais beaucoup plus d'heures, tu es tout le temps accessible, justement ta messagerie instantanée qui est ouverte, tes courriels, tu réponds à tes appels, tu as l'impression que, en fait, ta maison devient ton lieu de travail. Bref, il n'y a plus vraiment de séparation qui se fait. Et là, si tu fais l'erreur de travailler en pyjama en plus pendant la journée, tu as l'impression, en fait, que tu es tout le temps en pyjama du matin au soir. Donc, cet aspect-là là, de séparation vie professionnelle, vie personnelle va être de plus en plus difficile. C'était déjà compliqué des fois de concilier les deux lorsque tu avais un emploi à l'extérieur du bureau. Mais là, ça devient aussi difficile, en fait, de vraiment juste marquer un moment de déconnexion. C'est que là, le travail empiète sur ta vie personnelle. En fait, le travail s'incruste dans ta maison, dans ta vie personnelle. Donc, marquer une séparation devient quand même un enjeu. Et je pense que ça sera la responsabilité de chacun d'entre nous de s'efforcer de mettre des mesures en pratique pour vraiment séparer les deux choses. Donc, tu sais, différentes choses à ce niveau-là. Déjà, d'avoir un bureau attitré dans ton domicile, c'est tellement important. Le bureau, c'est l'endroit où est-ce que je travaille, mais quand je sors du bureau, je ne suis plus au boulot. Ne pas prendre des mauvaises habitudes, tu sais, de lire tes courriels, de répondre à tes messages instantanés ou répondre à tes appels en dehors des heures de travail, parce que sinon, c'est comme si tu autorises le travail à empiéter sur ton temps personnel. Bref, ça, c'est quelque chose que je pense que chaque personne doit prendre au sérieux de façon individuelle. Parce que ça va faire partie du futur et si tu ne veux pas justement m'amener juste t'épuiser, faire en sorte que le travail déborde et empiète sur ta vie personnelle, il faut que tu fasses très attention. La prochaine tendance, quatrième tendance que je veux vous présenter, c'est que je pense que dans le futur, et c'est déjà commencé, de plus en plus de gens vont vouloir des horaires de travail flexibles. On a goûté au télétravail et le télétravail nous a comme donné à tous et chacun un certain aperçu de ce que c'est d'être, disons, un travailleur autonome, d'être à son propre compte. Parce que, en général, avant la pandémie, les gens qui travaillaient de la maison, c'était les freelance, les travailleurs autonomes pour la grande majorité. Donc, des gens qui avaient une autonomie sur leur emploi du temps. Et là, pour la plupart des gens, à moins que vous étiez, mettons, dans un télétravail très encadré, là, il y avait des entreprises qui, mettons, obligeaient un télétravail où est-ce qu'il faut que tu sois disponible devant ton ordinateur de telle heure à telle heure. Donc ça reste encore peut-être une mentalité vieux jeu un petit peu. Mais si vous avez eu un télétravail flexible, où est-ce que vous pouviez, par exemple, prendre votre pause quand vous vouliez, modifier un petit peu vos heures de bureau. Exemple, si tu as envie de commencer à 7h le matin et finir à 15h, tu as le droit. Tout comme si tu veux commencer à 10h et finir à 18h, tu peux également. Si tu étais dans un environnement où est-ce qu'il y avait de la flexibilité et que tu as goûté à ça, clairement, tu ne voudras jamais retourner à l'ancienne vie de bureau où est-ce que faut que tu sois présent de 9 à 5 à ton bureau pour faire tes tâches. Moi, je pense que c'est le futur. Et d'ailleurs, ma prochaine tendance va vraiment, je pourrais renchérir un petit peu sur ce point-là. Ça, je pense que c'est vraiment une mentalité d'une autre époque parce qu'aujourd'hui, notre travail ne se mesure plus aux heures travaillées dans la plupart des secteurs, mais vraiment aux résultats qui est atteint. Je fais peut-être ici une exception, évidemment, encore une fois, tu sais, tous les métiers, évidemment, où est-ce que ça requiert absolument une présence physique, eh bien, c'est sûr que ça s'applique un petit peu moins. Mais encore une fois, tu sais, je pense que le public cible du podcast, c'est des gens qui ont une certaine autonomie sur leur travail, sur leurs tâches, sur leurs priorités, des dirigeants, des entrepreneurs, des personnels qui, en fait, peut-être des salariés qui ont un certain niveau de responsabilité. Donc, dans ce contexte, je pense que le futur, c'est d'avoir une autonomie. Et j'espère que la pandémie fera évoluer les mentalités auprès peut-être des employeurs, mais que chacun puisse avoir la liberté de gérer son horaire comme il veut. Ce qui compte, encore une fois, c'est pas le nombre d'heures auxquelles tu es assis derrière ton ordinateur et à ton bureau. Ce qui compte le plus aujourd'hui, c'est les résultats, la valeur que tu vas apporter. Donc, ça nous amène vraiment à un changement de mentalité, ce qui veut dire que si moi, je te rémunère pour que tu apportes une valeur, pour que tu génères un résultat, ben j'ai plus nécessairement besoin de contrôler tes heures de travail. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on atteigne les standards, mais après ça, la façon que tu organises ton horaire, pour moi, ça ne pose pas problème. Tu sais, à ce jour, moi, j'ai des gens qui travaillent avec moi qui sont des sous-traitants et je n'impose absolument aucune structure. Oui, parfois, ça va arriver que je vais demander peut-être un bloc de disponibilité récurrent. Par exemple, mettons, je veux que tu sois disponible le lundi avant midi, entre telle heure et telle heure, parce que là, je vais te donner toutes les directives de la semaine. Ça se peut que je le demande, parce que moi, en tant que leader, ben, ça me permet au moins de savoir, OK, ben, le lundi, je sais qu'elle est disponible, je vais pouvoir lui communiquer mes directives et tout ça. Mais le reste de la semaine, un coup que je t'ai donné les choses à faire, ben, après ça, peu importe à quelle heure tu travailles, que tu te lèves, que tu travailles jusqu'à 1h du matin parce que tu es plus productif le soir ou que tu t'es un lève-tôt, que tu commences ta journée tard, moi, ça ne me regarde pas tant et aussi longtemps que tu m'arrives à la fin de la semaine avec le travail qui est accompli, le résultat qui est atteint, c'est ça qui compte. Et donc, je pense que dans le futur, les gens vont vouloir de plus en plus d'horaires flexibles. Donc, ça, pour moi, c'est aussi quelque chose que les entreprises doivent penser à offrir plus sérieusement. En plus, aujourd'hui, avec la pénurie de main-d'œuvre, les entreprises qui n'offrent pas d'horaires flexibles ni de télétravail, encore une fois, partent vraiment en arrière par rapport aux entreprises qui sont innovantes et qui offrent beaucoup de flexibilité. Moi, justement, une entreprise avec laquelle je fais affaire, mon agence, mettons, de marketing et tout ça, eux autres sont vraiment dans un leadership qui est ultra moderne, ultra flexible. Donc, les gens ont certaines heures de bureau qui doivent être là pour des réunions. Mais après ça, chaque employé gère son horaire comme il veut pour autant que le travail est fait. Et ça, je pense que c'est le futur. Et j'espère vraiment que beaucoup d'entreprises vont évoluer dans ce sens-là où est-ce qu'on va vraiment faire confiance aux gens et on va mesurer sur les résultats atteints, la valeur générée, non pas les heures travaillées. Et puis là, je vais rebondir tout de suite, en fait, sur la cinquième tendance qui, pour moi, c'est vraiment une suite logique. En fait, j'aurais pu mettre les deux dans le même point, mais je voulais les mentionner séparément parce que c'est quand même un petit peu différent, bien que semblable. La cinquième tendance, pour moi, c'est que le futur, c'est une gestion par résultat et non pas par heure travaillée. Donc, nécessairement, quand tu as ce shift-là dans ta tête, dans ton esprit, où est-ce que tu te dis, ben écoute, moi, ce qui compte, c'est pas que mon employé soit là 40 heures au bureau. Ce qui compte, c'est qu'il atteigne les résultats que je lui ai demandé, qu'il respecte les délais, qu'il serve le client dans des bons délais et tout ça. Ben, du moment que tu as ce changement de mentalité-là, ben, après ça, automatiquement, le fait d'offrir des horaires flexibles devient comme une suite logique. C'est si moi, je t'évalue sur le résultat que tu produis, ben après ça, je n'ai pas à t'imposer d'horaire parce qu'au final, si le travail n'est pas fait, ben oui, j'aurai le droit de te taper sur les doigts parce que là, tu n'as pas convenu à ce qu'on avait dit. Mais de l'autre côté, si tu m'arrives semaine après semaine avec le travail qui est fait dans les délais, après ça, moi, ça ne me regarde pas comment tu gères tes trucs. Que tu prennes une pause de 3 heures en plein milieu de ta journée parce que tu préfères couper ta journée en deux et tout ça. Donc, le futur, pour moi, du milieu du travail, c'est une gestion par résultat et non pas par heure travaillée. Évidemment, il y a des secteurs où est-ce que c'est vraiment facile de mettre ça en place. On peut penser à la vente. Bien, c'est sûr que moi, si j'ai une équipe de vendeurs qui travaille pour moi, bien, ça va être super simple de leur dire, bien, écoute, ton objectif de vente pour le mois, c'est ceci. Ensuite de ça, tu gères ton horaire comme tu veux. Moi, tout ce que je te demande, c'est d'être présent au bureau une journée par semaine pour des réunions, pour de la coordination d'équipe. Mais après ça, moi, ce qui compte pour moi, c'est que tu vendes des contrats. Donc ça, c'est un secteur, mettons, qui est très facile où est-ce que tu peux gérer en mode résultat et non pas par heure travaillée. Après, bon, je sais très bien qu'il y a des secteurs que, bon, c'est un petit peu moins tangible, mais c'est là qu'il va falloir se creuser la tête pour savoir en équipe comment est-ce qu'on peut mesurer le travail? Quels pourraient être des KPI, en tout cas des critères d'évaluation qu'on peut mettre dans notre type de métier pour évaluer la performance? Et donc, quand tu as les bons indicateurs de performance pour un poste, bien, après ça, automatiquement, je peux relâcher le niveau de contrôle que je mets sur ces horaires parce que ce qui compte, encore une fois, c'est l'atteinte des indicateurs de performance. Alors ça, je sais, je peux pas vous donner la réponse ici sur le podcast parce que là, il y a des milliers, évidemment, de secteurs, des milliers d'entreprises. Mais l'important, c'est si tu veux passer d'une approche où est-ce que tu mesures par les heures travaillées vers une approche sur les résultats, première chose à faire, c'est identifier des critères de performance, que ce soit une date limite, exemple, finaliser le projet d'ici telle date. Ou si tu as des gens, je ne sais pas, qui font des rendez-vous, tu gères un cabinet de consultation, ben moi, je veux qu'on ait rencontré, je veux que chacun rencontre 10 clients par semaine, ou je veux que tu aies fait 20 cold calls par semaine pour solliciter des gens, ou peu importe. T'sais. Donc vraiment, c'est de creuser la tête dans ton secteur, quels critères de performance tu peux mettre en place. Et quand tu as les bons critères, tu peux maintenant relâcher le contrôle et donner beaucoup plus de flexibilité aux gens. J'arrive à la fin maintenant avec la sixième et dernière tendance du futur en organisation. Et je dirais que la sixième tendance, c'est qu'avoir un bon système d'organisation personnelle est maintenant indispensable de nos jours et le sera encore plus dans le futur. Comme on a dit, le milieu professionnel a évolué avec les technologies qu'on a maintenant depuis quelques années. L'information circule beaucoup plus vite. On reçoit plus d'informations. Juste quand on parle des messageries instantanées, les courriels, en plus de tout ce qu'on reçoit sous format papier, les réunions, les appels sur Zoom, toutes ces choses-là, les tâches qu'on doit faire. Bref, tout va plus vite qu'avant. Donc, tu ne peux plus aujourd'hui être performant sur le marché du travail, peu importe ton métier, que tu sois entrepreneur, salarié, dirigeant et tout ça. Tu ne peux pas être pleinement performant et efficace aujourd'hui dans le milieu du travail si tu n'as pas un bon système d'organisation personnelle. Donc, moi des fois, écoute, je tombe en bas de ma chaise parfois quand je fais des consultations et que je vois des gens qui ont vraiment un haut poste à responsabilité, mais qui s'organisent encore avec des post-it, un agenda papier, ne savent pas comment maîtriser leur boîte de courriel, n'utilisent même pas leur agenda pour faire des blocs de temps, ne planifient pas leur semaine, leur bureau n'est pas bien organisé. Moi, je suis comme, wow, tu sais, il y a du travail à faire et tant mieux pour moi parce que c'est comme ça que moi, je gagne ma vie, c'est en apportant ces conseils-là d'organisation. Mais je me dis que une des tendances du futur, c'est que tu ne peux pas survivre et être pleinement performant de nos jours avec les exigences du marché si tu n'as pas un bon système d'organisation. Donc, deux options s'offrent à toi. C'est soit que tu ne fais rien et que tu restes comme ça au risque de t'exposer à des conséquences comme de la surcharge de travail, un épuisement, incapable d'atteindre tes objectifs et tout ça. Ou c'est soit que tu prends les choses en main et que tu décides vraiment de te former, de te renseigner pour mettre en place ce système d'organisation-là. Et c'est certain que si tu as besoin d'aide à ce niveau-là, je suis la bonne personne pour te conseiller. Donc, j'ai déjà plein de ressources là-dessus pour t'aider à créer un bon système d'organisation. Et d'ailleurs, je vous annonce en primeur que dans la prochaine année, en fait, probablement ma prochaine formation en ligne que je vais sortir cette année sera sur le thème de comment créer un bon système d'organisation personnelle de A à Z. Alors, bonne nouvelle, si jamais c'est un problème pour toi, il y aura une formation que je vais sortir éventuellement cette année. Mais tu as absolument besoin de ça. Tu as besoin d'outils qui vont t'aider. Tu as besoin de maîtriser ton agenda, de maîtriser tes courriels, d'avoir un bon espace de travail. Tu as besoin d'un deuxième cerveau, un outil comme OneNote, Evernote ou Notion pour pouvoir écrire tes notes, noter tes idées, ne pas avoir une surcharge mentale. Tu as besoin d'une bonne to-do list. Bref, il y a beaucoup de travail à ce niveau-là. Alors, mon but, c'est pas d'aller trop dans le détail dans ce podcast, mais une des tendances du futur, c'est que tu ne peux pas survivre si tu n'as pas de bon système d'organisation. Donc, je vais m'arrêter là. Ça fait déjà un long podcast. On est déjà à plus de 30 minutes d'enregistrement. Alors, je vais résumer très rapidement les 6 tendances qu'on a vues. Donc, première tendance, les outils de messagerie instantanée vont faire partie intégrante de nos communications. Le télétravail est devenu la nouvelle norme. Tracer une ligne entre la vie personnelle et professionnelle va devenir de plus en plus difficile et à la fois essentielle. Les gens vont vouloir de plus en plus des horaires flexibles. Donc, ça va être important que les employeurs puissent s'adapter et proposer des horaires flexibles à leur équipe. Le futur, c'est une gestion par résultat et non pas une gestion par heure travaillée. Donc, la fameuse semaine de 40 heures, pour moi, c'est quelque chose du passé, à moins que tu sois dans une industrie spécifique où est-ce que, par exemple, tu dois absolument être au bureau de telle heure à telle heure pour accomplir une tâche physique ou servir un client qui est sur place. Mais pour la majorité des travailleurs du savoir, on n'a plus besoin. En fait, c'est plus les heures travaillées qui comptent, c'est les résultats atteints. Donc ça, c'est le futur. Et sixièmement et dernièrement, avoir un bon système d'organisation est indispensable pour survivre de nos jours et performer à la hauteur de ton potentiel. Donc, écoute, j'espère que ce podcast t'éclaire. J'espère que tu l'as apprécié, un petit peu différent de ce que je faisais d'habitude. Mais je serais bien curieux d'engager une discussion avec toi si tu veux commenter mes tendances ou peut-être que toi, tu vois d'autres tendances que je n'ai pas mentionnées. Hein. Je n'ai pas la prétention de dire que c'est une liste exhaustive non plus. Donc, je t'invite vraiment, si tu veux discuter avec moi, à venir sur mon site web, sur la page du podcast en question, qui est le mathieuderoche.com/91. Donc, mathieuderoche.com/91. Viens discuter avec moi. Il y a une zone de commentaires sur mon site. Ça va me faire plaisir de te lire, d'échanger avec toi. Et puis, si tu as aimé le podcast, tu voudrais le partager peut-être à des coéquipiers, à des gestionnaires de haut niveau, ton boss ou autre, n'hésite pas à le partager pour qu'ils puissent eux aussi entendre ce message-là. Donc, merci de m'avoir écouté et on se revoit dans un prochain épisode.